VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous. Heureux de vous présenter cette édition de 17h30 de temps universel du vendredi 16 septembre 2022. Voici les titres. Le président Joe Biden reçoit ce vendredi son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le climat et les relations commerciales seront parmi les sujets abordés. 15 morts dans un accident de la route en Guinée. Le groupe État islamique revendique sa première attaque au Bénin, une attaque survenue début juillet qui confirme l'extension du groupe État islamique dans le golfe de Guinée. Les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine veulent s'ériger en contrepoids face à l'influence occidentale. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et le sport, mais tout de suite le journal. Le président Joe Biden reçoit ce vendredi à la Maison-Blanche son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. D'après la porte-parole de la présidence, Karine Jean-Pierre, le président américain va aborder avec son invité plusieurs sujets. Faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
Au menu des échanges, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, la crise climatique, le commerce, les investissements. Autre sujet délicat en toile de fond de la rencontre, la Chine avec laquelle l'Afrique du Sud entretient de bonnes relations, mais dont Washington veut contrer l'influence. Les deux présidents vont aussi discuter de l'aide promise par les Occidentaux pour la transition énergétique en Afrique du Sud, où le charbon joue un rôle important. La nation arc-en-ciel s'est vue promettre 8,5 milliards de dollars par plusieurs pays développés pour arrêter d'utiliser le charbon, mais elle craint que cette promesse alourdisse sa dette. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Afrique du Sud a refusé de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. Un haut responsable de la Maison-Blanche dit être impatient d'entendre les vues de l'Afrique du Sud sur la manière d'arriver à une juste conclusion du conflit en Ukraine. Cyril Ramaphosa sera aussi reçu par la vice-présidente Kamala Harris. Joe Biden, qui jusqu'ici ne s'est pas rendu en Afrique, organise en décembre à Washington un sommet avec des dirigeants du continent.
Deux membres de l'ambassade de France au Mali interpellés hier à Bamako ont été libérés ce vendredi. Selon un diplomate français dans la capitale malienne, les deux Français ont été interpellés alors qu'ils prenaient des photos d'un terrain de football devant servir de point de rassemblement pour les ressortissants français en cas d'évacuation forcée. En Guinée, le procès réclamé de longue date du massacre de 2009 au stade de Conakry débutera bien le 28 septembre, a confirmé ce vendredi le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright lors d'une conférence de presse. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. Récemment, les autorités guinéennes avaient promis l'ouverture de ce procès d'ici la date anniversaire du massacre. Restant en Guinée, où la route a encore tué, 15 personnes sont mortes hier jeudi dans un accident de minibus près de la ville de Dabola, dans le centre du pays. Annoncé aujourd'hui les autorités locales. Les précisions avec Jean-Roger Bion.
Un minibus rempli de passagers accompagnant un corps à Bisikirima, près de Dabola, dans le centre de la Guinée, s'est renversé, tuant 14 personnes sur le coup, a déclaré le lieutenant-colonel Idrissa Camara, préfet de la ville voisine de Kourousa. Il a fait savoir que la 15e victime est décédée lors de son transfert à l'hôpital. Le préfet a aussi précisé que 11 corps ont été brûlés parce qu'un bidon d'essence avait pris feu à l'intérieur du véhicule. 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement, a déclaré un responsable du syndicat des transporteurs de Dabola. Elles ont été transportées à l'hôpital régional de Kankan. Les accidents de la route sont fréquents en Guinée, souvent causés par une conduite imprudente et le mauvais état des routes et des véhicules. Au moins 30 personnes sont mortes dans de multiples accidents de la circulation au début du mois de juin.
Le groupe État islamique a revendiqué pour la première fois une attaque dans le nord du Bénin, exécutée par sa branche au Sahel. Le même groupe revendique aussi une attaque meurtrière à Talataï, dans le nord du Mali. Le point avec Michel Joseph.
Les soldats du califat annoncent l'expansion de leurs opérations au Bénin, a affirmé l'hebdomadaire Al-Naba, organe officiel du groupe État islamique, cité aujourd'hui par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes. Selon Al-Naba, début juillet, ces combattants ont attaqué une patrouille militaire dans le village de Takwara, dans la région d'Alibori, dans le nord, et ont tué 4 soldats béninois. Le lendemain, une embuscade dans la même région aurait coûté la vie à 2 militaires. C'est la première fois que la branche sahélienne de ce groupe djihadiste revendique des activités au Bénin. Dans le même numéro d'Al-Naba, le groupe État islamique revendique aussi l'attaque de Talataye, à environ 150 km de Gao, dans le nord du Mali, qui a fait plusieurs dizaines de morts la semaine passée.
Un chef rebelle tchadien emprisonné depuis 2 ans en Égypte est rentré au Tchad ce vendredi après que son mouvement, dirigé par son frère, s'est rallié au dialogue de réconciliation nationale. Tom Erdimi, 67 ans, est arrivé en fin de matinée à N'Djamena. Il a été accueilli notamment par son frère jumeau Timan Erdimi, cofondateur avec lui et commandant en chef de l'Union des forces de la résistance, l'un des 3 principaux mouvements rebelles armés au Tchad. Le Parlement ougandais a qualifié d'affront une résolution adoptée par les eurodéputés et épinglant le mégaprojet d'exploitation pétrolière de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Dans une résolution non contraignante, le Parlement européen s'est dit extrêmement préoccupé par les violations des droits de l'homme commises dans ces 2 pays, citant des arrestations, des actes d'intimidation et de harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales. Les eurodéputés ont réclamé un dispositif de compensation adéquat pour les personnes expropriées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine se posent en contrepoids à l'influence occidentale lors d'un sommet régional réunissant plusieurs pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le point avec Rosine Munezero.
Lors de ce sommet à Samarcande, à Ouzbékistan, le président chinois Xi Jinping a appelé les dirigeants réunis à travailler ensemble à la promotion d'un ordre international qui aille dans une direction plus juste et rationnelle. De son côté, le président russe s'est félicité du rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir qui, selon lui, devient de plus en plus évident. Les 2 dirigeants sont en tête de fiche du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont les membres sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et 4 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Le groupe a été créé en 2001 en tant que plateforme de coopération concurrente des organisations occidentales. Lors d'un entretien hier avec le leader chinois, M. Poutine l'a remercié pour sa position équilibrée sur l'invasion de l'Ukraine. Vendredi, le président russe doit s'entretenir avec le Premier ministre indien Narendra Modi, puis avec le président turc avec qui il veut rediscuter d'un accord ayant permis de débloquer les exportations de céréales ukrainiennes.
Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a assuré ce vendredi au premier ministre indien Narendra Modi qu'il souhaitait terminer le plus vite possible le conflit en Ukraine, tout en disant comprendre les inquiétudes de l'Inde à ce sujet. En marge d'un sommet régional en Ouzbékistan, le premier ministre indien a dit au président russe Vladimir Poutine que l'heure n'était pas à la guerre. Les 2 dirigeants ont discuté de la manière d'avancer sur la voie de la paix, a ajouté le Premier ministre indien. Les autorités ukrainiennes disent avoir découvert ce vendredi des centaines de tombes dans une forêt en périphérie d'Izium, une ville récemment reprise aux forces russes dans la région de Kharkiv. Selon les autorités locales, 443 tombes ont été découvertes au total sur ce site, avec notamment une fosse contenant le corps de 17 soldats ukrainiens. Pour sa part, la police dit avoir découvert ce qu'elle décrit comme des salles de torture dans la zone. Ici aux États-Unis, un magistrat fédéral est désormais chargé de passer en revue les milliers de documents saisis début août au domicile de l'ancien président américain Donald Trump. C'est la décision prise par une juge, confirmant par ailleurs une décision limitant leur accès par les enquêteurs. L'ancien président avait réclamé à la justice de nommer une tierce partie indépendante pour examiner les papiers saisis lors de la perquisition du 8 août spectaculaire et inédite pour un ancien président. Et puis l'ONU dénonce la surveillance croissante des individus dans les espaces publics alors que certains pays utilisent les systèmes de reconnaissance biométrique pour surveiller les opposants politiques ou procéder à du profilage racial. Dans un nouveau rapport publié aujourd'hui sur le droit à la vie privée à l'ère numérique, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU affirme que la plupart des autorités continuent à utiliser ces systèmes de surveillance biométrique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Au Cameroun, selon le rapport 2021 sur les comptes nationaux de l'Institut national de la statistique, les importations ont augmenté de près de 14% après avoir diminué de plus de 17% l'année précédente. Cette hausse, notamment due aux matériels et services de transport et produits chimiques et agricoles, a contribué négativement à la croissance du produit intérieur brut de 2,6 points. Le groupe Alstom a annoncé l'extension de ses capacités de production en Afrique du Sud grâce à l'acquisition d'actifs pour la fabrication de carrosseries de voitures auprès du groupe TMH Africa. Le spécialiste des transports ferroviaires s'approvisionnait pour son projet de locomotive électrique Trax auprès de Transnet, qui est en redressement judiciaire, indique un communiqué. La société pétrolière russe Rosneft a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 7,22 milliards de dollars au premier semestre 2022, soit une hausse de 13% par rapport à la même période l'an dernier, malgré les sanctions internationales. Sa production d'hydrocarbures au premier semestre a atteint l'équivalent de 4,85 millions de barils par jour, soit une augmentation de 1,5%, et sa dette a diminué de 12% par rapport au début de l'année.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Bouraman, bonsoir à tous.
Cédric Bamambou s'engage avec l'Olympiakos.
Oui, l'attaquant congolais indésirable à l'Olympique de Marseille et qui venait de résilier son contrat s'est engagé libre avec le club grec de l'Olympiakos. Les détails financiers du transfert et de la durée du contrat n'ont pas été communiqués. C'est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu'au bout de cette campagne de qualification en Ligue des Champions la saison dernière, a écrit Cédric Bakambou, 31 ans, sur son compte Twitter. Il était arrivé libre à Marseille lors du dernier mercato hivernal après un passage prolifique en Chine au Beijing Guoan, mais il n'a marqué que 4 buts en 24 matchs sous les couleurs marseillaises.
Andy Delors annonce son retour chez les Fennec.
L'attaquant algérien de l'OGC Nice a présenté des excuses aux Algériens pour s'être mis en retrait de la sélection nationale avant d'annoncer son retour chez les Fennec après près d'un an d'absence. Champion d'Afrique en 2019 avec l'Algérie, mais pas titulaire indiscutable, Andy Delors avait décidé en octobre 2021, à la veille de la dernière édition de la CAN au Cameroun, de mettre la sélection entre parenthèses pour une année. Il disait alors vouloir se concentrer sur sa saison à Nice, qu'il venait de rejoindre en provenance de Montpellier. Sa défection à la veille de la CAN lui avait valu de virulents reproches du sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi.
Basketball, un vice-président des Suns appelle à la démission de Robert Sarver.
Je ne veux pas, en toute bonne foi, rester les bras croisés et laisser nos enfants et les futures générations de fans penser que ce comportement est toléré en raison de la richesse et des privilèges. C'est ce qu'a écrit Jam Najafi, qui a aussi des parts dans la franchise NBA. Le propriétaire des Suns, Robert Sarver, a été suspendu par la NBA pour un an pour comportement raciste et misogyne. Il a été accusé de comportement raciste et sexiste dans une enquête menée par ESPN en novembre 2021, qui s'est appuyée sur le témoignage de plus de 70 employés des Suns. Entre autres propos condamnables, il avait dit à l'une de ses employées, alors qu'elle était enceinte, qu'elle ne pourrait plus faire son travail correctement si elle devenait mère.
Un maillot de Michael Jordan vendu aux enchères pour plus de 10 millions de dollars.
Ce maillot a été porté par la légende de la NBA lors de sa dernière saison 1997-1998 avec les Chicago Bulls. Ce montant de 10,1 millions de dollars est un record pour un article de sport appartenant à l'histoire. Pour la maison de vente aux enchères, c'est un record pour n'importe quel article de sport déjà porté et appartenant au patrimoine ainsi que l'article le plus cher jamais vendu dans la collection de Michael Jordan.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on démarre donc avec cette semaine de réconciliation au Mali depuis hier. Jeudi et ce, jusqu'au 21 septembre, le Mali va vivre au rythme de la Semaine nationale de la réconciliation. Une semaine durant laquelle plusieurs activités culturelles seront organisées en vue de rapprocher les populations et taire les dissensions. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
C'est en présence des représentants des communautés, des autorités religieuses et coutumières, des ambassadeurs accrédités au Mali, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a tendu une main fraternelle à l'endroit, surtout des groupes armés signataires de l'accord pour la paix, issu du processus d'Alger.
Il lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune.
Pour Mohamed Ould Matali, membre de la plateforme, un regroupement qui a signé l'accord de paix, la main tendue du président sera saisie en vue de ramener la paix au Mali pour le bonheur des populations meurtries depuis 2012.
Le message porté par les autorités est un message juste qui va au cœur de tous les Maliens. Et c'est le moment où les Maliens doivent se retrouver pour jamais. On doit se retrouver parce que le Mali a besoin de ses fils aujourd'hui. Dans l'intégralité de tous ses fils, sur toute l'étendue du pays et à l'extérieur du pays, les Maliens doivent être un et indivisibles.
Plaidant la cause des femmes et des enfants, les couches les plus vulnérables, Maïga Sinadamba, qui siège actuellement au sein du comité de suivi de l'accord et ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, invite les uns et les autres au pardon.
Et elle vient à point nommé au moment où on a besoin des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, on a tous besoin aujourd'hui les uns des autres pour faire face aux défis qui menacent notre pays.
Des matchs de football, des activités culturelles et socioculturelles seront organisées tout au long de cette semaine en vue de permettre aux Maliens de se rencontrer, de se parler pour enfin se pardonner. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Au Niger, les secours aux personnes sinistrées par des inondations s'organisent. À la date du 12 septembre, selon les autorités, elles sont estimées à près de 20 000, dont 137 décès. Suivez ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Dans la commune de Dinkiandou, non loin de la capitale Niamey, 4 villages ont fortement été affectés par les eaux de pluie. Témoignage de cette habitante du village de Goudjézé. C'est au milieu de la nuit que les pluies nous ont surpris. Nous étions en train de dormir lorsque les cris de nos voisins nous ont réveillés. Nous n'avions pu sortir qu'avec les vêtements que nous portions. Vous voyez, actuellement, nous sommes logés dans les champs. Nous avons pu se faire détruire les cultures. C'est vraiment dommage. Parmi les premiers secours à ces sinistrés de la commune de Dantiandou figure l'ONG Médecins Sans Frontières. Sidi Diallo est le coordinateur des urgences.
On a aidé les populations déjà à s'installer en leur donnant des kits d'abri. On a donné le kit hygiène pour que les populations arrivent à subvenir aux besoins hygiéniques. Nous avons donné aussi le kit cuisine parce que quand les maisons se sont effondrées, les populations ont tout perdu. Et dans chaque famille, nous avons distribué des moustiquaires pour protéger les enfants et la famille contre le paludisme.
Une assistance qui soulage les autorités de la commune, selon le maire Bachirou Moussa Harouna.
L'aide que le Médecins Sans Frontières vient de nous apporter, ça va soulager la population. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune bâche qui a été implantée. Donc les gens sont des hangars. Donc aujourd'hui, avec leur appui là, ils vont implanter les bâches, ils vont avoir là où s'asseoir avec les nattes, ils vont s'asseoir sur les nattes et avec surtout aussi l'équipe de cuisine.
La situation de ces inondations a été faite en Conseil des ministres par le ministre en charge des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, Lawan Magaji.
Nous totalisons 22 406 ménages sinistrés donc cette année contre 25 887 l'année 2021. Nous avons enregistré 137 décès. Nous avons eu beaucoup de maisons effondrées plus que 2021 parce que nous avons enregistré 20 339 maisons effondrées. Par rapport aux animaux, là, c'est beaucoup moins parce que nous avons eu 116 petits ruminants, 566 gros ruminants. Et la même chose en matière donc de superficie de culture qui ont été inondées. Nous sommes à 915 hectares de cultures qui ont été complètement endommagées et perdues.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a promis de soutenir les efforts de l'Afrique pour faire face à l'impact du changement climatique lors d'un discours prononcé hier jeudi à Dakar au Sénégal. La conférence africaine sur l'environnement réunit plus de 50 ministres pour coordonner la lutte contre le changement climatique. Reportage à Dakar d'Annika Hamelschlag et c'est un récit de Jean-Roger Bion.
Tout au long de son discours d'une vingtaine de minutes, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a rappelé l'importance des partenariats dans la lutte contre la crise climatique. Selon lui, le secteur privé, les organisations de la société civile et les gouvernements doivent s'unir. M. Kerry a souligné les effets dévastateurs du changement climatique en Afrique, où se trouvent 17 des 20 pays les plus vulnérables. Il a également souligné l'écart entre les pays développés et les pays en développement, 20 pays dont les États-Unis sont responsables de 80% des émissions mondiales, contre 48 des pays d'Afrique subsaharienne qui ne sont responsables que de 0,55%.
And is there a disparity in that? Yes, there is.
Y a-t-il une disparité à cet égard? Oui, il y en a une. Y a-t-il une injustice dans tout cela? Oui, il y en a une. Mère Nature ne mesure pas d'où viennent les émissions. Elle ne porte pas l'étiquette d'un pays ou d'un autre. Et il est important que nous nous réunissions tous pour déterminer comment nous allons compenser cela et y faire face.
M. Kerry a déclaré que les États-Unis se sont engagés à aider plus d'un demi-milliard de personnes dans les pays en développement à s'adapter aux effets du changement climatique au cours de cette décennie, grâce à des initiatives visant à améliorer la capacité de stockage de l'eau ainsi que l'agriculture et les infrastructures résistantes au climat. La conférence se tient à la suite d'inondations et de sécheresses majeures sur le continent qui ont aggravé l'insécurité alimentaire, endommagé les infrastructures vitales et coûté des milliards de dollars aux économies fragiles. Collis Nzovu est le ministre zambien de l'Environnement. Il s'est dit ravi que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris après une interruption de 4 ans.
America's leadership is required at this critical time.
Le leadership de l'Amérique est nécessaire en ce moment critique. Je pense que nous voulons exhorter l'Amérique à se joindre à nous et à se joindre à nous de façon importante. Le fait que John Kerry ait fait le tour du monde, qu'il ait prêché à tout le monde sur les effets négatifs du changement climatique et qu'il ait également rassemblé des soutiens, notamment pour les États africains et en particulier pour mon pays, la Zambie, je pense que c'est louable.
John Kerry a commencé sa tournée africaine lundi au Nigeria où il a rencontré le président Muhammadu Buhari et s'est engagé à soutenir les efforts du Nigeria pour passer à l'énergie verte. Leila Ben Ali est la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc et présidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Elle a dit qu'elle apprécie que M. Kerry reconnaisse le fardeau injuste que portent les pays africains sur l'impact du changement climatique.
But I think the most important point that he mentioned was.
Mais je pense que le point le plus important qu'il a mentionné était cette question de la mobilisation du cofinancement des banques multilatérales de développement, des sources publiques et privées, et de mettre cela en face de projets bancables.
Selon elle, des milliards de dollars sont nécessaires pour aider les pays à faire face à la perte de biodiversité, à la sécheresse et aux autres impacts de la crise climatique. L'envoyé spécial américain pour le climat a déclaré que les États-Unis pourraient annoncer de nouveaux engagements lors de la conférence sur le climat qui se tiendra en novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Washington, la voix de l'Amérique.
La Russie renforce ses liens avec la Chine et des pays asiatiques pour faire face aux sanctions occidentales. Lors d'un sommet régional en Ouzbékistan, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine disent vouloir s'ériger en contrepoids face à l'Occident. Pour une analyse, Rosine Munezero, adjoint ici à Washington, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je crois que la Chine, avec son économie très très forte, est le plus fort dans cette alliance. La Russie, tout ce qu'ils ont, c'est la puissance militaire. Ils envoient des mercenaires, mais ils vendent le gaz à l'Europe. Mais maintenant, ça s'est coupé. Donc, je crois que sur le plan économique, la Chine est beaucoup plus forte et domine la Russie.
Pensez-vous que l'alliance de ces deux pays, leur coopération avec certains autres pays de l'Asie centrale, l'Inde, le Pakistan et bien d'autres, pensez-vous que cette alliance peut faire face à l'Occident, États-Unis, Europe réunis? Ont-ils les moyens suffisants pour le faire?
Non, je ne crois pas que les intérêts américains avec l'OTAN sont beaucoup plus forts que les intérêts de Chine et la Chine fait beaucoup d'infrastructures en Afrique, tu sais, et ça donne une grande popularité pour les votes dans l'ONU. Mais je crois en général, l'alliance Amérique, l'OTAN est beaucoup plus fort que l'alliance la Russie-la Chine. Et nous n'avons rien à craindre de l'alliance de la Chine et la Russie, à mon avis.
Quels sont les enjeux, selon vous, quels sont les enjeux de cette alliance aujourd'hui?
Je crois pas que c'est très important. La Chine veut protéger ses échanges commerciaux et la Russie veut être sûre que l'OTAN ne sera pas sur la frontière. Mais quand même, l'OTAN est déjà sur la frontière dans Lituanie, Latvie. Donc, je crois que c'est pas très important.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Le président Joe Biden s'insurge contre les suprémacistes blancs et exhorte la nation à surmonter les divisions politiques toxiques, selon ses propres termes. C'était hier lors d'un sommet à la Maison-Blanche visant à combattre la division et la violence alimentée par la haine. La chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, rapporte que les critiques de Biden soutiennent plutôt que c'est lui-même qui fomente la discorde. Le récit de Yacouba Ouedraogo.
Rassemblement des suprématistes blancs en 2017 à Charlottesville, en Virginie. Accueillant à la Maison-Blanche le United We Stand Summit, le président Joe Biden est revenu sur l'événement qui a entraîné la mort d'un contre-manifestant.
Les suprémacistes blancs n'auront pas le dernier mot, et ce venin et cette violence ne peuvent pas être l'histoire de notre époque.
La Maison-Blanche soutient que ce sommet rend hommage aux communautés qui ont subi des attaques motivées par la haine, y compris les fusillades de masse qui ont eu lieu dans un temple du Wisconsin en 2012, une discothèque gay en Floride en 2016, un spa asiatique en Géorgie en 2021, un supermarché texan en 2019 ciblant les Hispaniques et un supermarché de New York ciblant les Noirs plus tôt cette année, pour ne citer que ces exemples. Les données du FBI montrent que les crimes haineux ont augmenté ces dernières années. Plusieurs facteurs ont contribué à leur augmentation, surtout le stress lié à la pandémie et la rhétorique politique hostile. C'est ce qu'affirme Phyllis Gerstenfeld, professeur de justice pénale à l'Université d'État de la Californie.
Cela a été un facteur clé au cours des 6 dernières années, où nous entendons des politiciens traditionnels dire que des choses qui correspondent parfaitement à ce que disent les suprémacistes, blancs et d'autres extrémistes.
Voilà, merci beaucoup. Fin de cette édition, mise en onde par Georges Léonard Sagnot, présentation Abdourahmane Dia. Merci à toute l'équipe de production. Dans quelques instants, un point sur l'actualité sur VOA Afrique. Et dans 5 minutes, à votre avis, spécialement dédié aux femmes.